Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Cette libre antenne qui est plus que jamais la vôtre. D'après les derniers sondages, vous êtes 47 000 de plus qu'au sondage précédent à nous rejoindre les samedis soirs sur Europe 1. Alors au nom de toute l'équipe, Amandine, Hassan et Fabrice, je vous remercie du fond du cœur. Ça veut dire qu'au total, nous sommes chaque samedi près de 230 000 à venir partager confidences et moments de vie sur cette antenne. Et ce partage, c'est ce qui nous enrichit, parce que venir se confier permet de se sentir moins seul, d'avoir un autre éclairage sur ce qui nous arrive. Et écouter ceux qui se confient permet de se rendre compte que nous ne sommes pas seuls à affronter des épreuves et que le point de vue des autres peut aussi nous aider quelquefois à trouver d'autres solutions. Si vous souhaitez prendre la parole ce soir et venir nous parler d'un sujet qui vous préoccupe, il vous suffit d'appeler le standard Europe 1, le 3921. Vous tomberez soit sur Amandine, soit sur Hassan qui sauront vous écouter et vous guider jusqu'à moi. Vous savez que vous pouvez aussi à tout moment intervenir par SMS en faisant le 739-21, commençant bien par le mot « nuit ». Envoyez-nous des SMS si la personne que vous entendez vous touche et que vous souhaitez entrer en contact avec elle. Si vous voulez apporter un mot gentil, un encouragement, un conseil, je me ferai votre interprète et transmettrai à l'antenne vos messages positifs et enrichissants. Je récapitule 39-21 pour nous appeler, 739-21 en commençant par le mot « nuit » pour vos SMS. Fabrice Fougerouze est donc à la réalisation ce soir et la libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et dans un instant, on va ouvrir cette libre antenne avec Chantal qui a des relations compliquées avec son fils. À tout de suite. Et c'est donc avec vous Chantal qu'on démarre cette libre antenne de samedi soir. Bonsoir Chantal.
Bonsoir.
Bienvenue.
Oui.
Qu'est-ce qui vous amène alors, dites-moi.
Mais écoutez, j'ai des relations conflictuelles avec mon fils, mais je ne sais toujours pas pourquoi. C'est-à-dire que je suppose qu'il me reproche d'avoir divorcé d'avec son père, et on a quand même divorcé en 1985, alors je comprends pas très bien. Il a 46 ans et... j'ai tout essayé pour le ramener à de meilleurs sentiments, c'est-à-dire je l'ai invité au restaurant en lui demandant de parler à bâton rompu pour aplatir le problème. Il a écouté ses copains pendant tout le repas. Une autre fois, j'ai envoyé une longue lettre en lui expliquant tout ce qui se passait, etc., et que je ne comprenais pas le pourquoi du comment, donc qu'il m'explique, il m'a jamais répondu. Et... Il est très curieux parce que là, ce soir, j'ai eu un message de lui me disant « Je viens prendre de tes nouvelles, rappelle-moi ». Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je l'appelle, il est sur répondeur. Je ne peux jamais l'appeler. Et j'ai eu récemment 4 hospitalisations en 3 mois, c'est-à-dire j'ai eu 2 opérations du cœur, un œdème pulmonaire et puis une infection septique violente. Et bon, il est venu me voir 2 fois une petite demi-heure quand j'ai été opérée du cœur, mais depuis je n'ai pas de nouvelles, je ne l'ai pas vu. Et là, je suis sortie de l'hôpital le 9 janvier, je n'ai pas eu de visite. Et très curieusement, j'ai demandé un jour, il y a 2 mois environ, s'il pouvait pas m'aider à faire des courses parce que j'ai une double sciatique, je suis diabétique, j'ai des problèmes immenses. Maintenant, je suis handicapée à 80%, je n'ai plus le droit de conduire et je suis clouée chez moi puisque je ne peux pas tenir debout toute seule. Alors, je lui avais demandé de m'aider à faire des courses, il m'a répondu par la négative et je lui ai demandé mais pourquoi. Et il m'a dit ça me coûterait trop cher d'essence. Or, il habite pas très loin de chez moi par rapport à mon habitation. Enfin, Alors, je ne sais pas, je ne comprends pas du tout. Je ne sais plus par quel moyen le faire revenir à de meilleurs sentiments. Voilà. Alors, je ne sais pas si des mamans ont le même problème que moi, parce que c'est désespérant. Et puis, je me retrouve toute seule. Donc, moi, j'étais très, très active avant. Et là, je suis perturbée, je suis perdue, quoi.
Alors, est-ce que vous voulez bien, Chantal, me raconter un peu votre histoire ? Comment ça s'est passé avec son papa ? C'est quelqu'un que vous avez rencontré jeune, le père de ce garçon ?
Oui. Son père, je l'ai rencontré, c'était mon premier mari. Donc, je l'ai rencontré sur une patinoire dans les Alpes. Et on s'est mariés très rapidement. Et puis, ça allait comme tous les mariages au début. Et puis, par la suite, je sais pas, il m'a trompée. Moi, j'envisageais pas du tout le mariage comme ça. Moi, j'espérais fêter mes 50 ans de mariage. J'espérais avoir 2 enfants, avoir une maison, un chien. J'ai rien eu de tout ça. Et
donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il vous a trompée ? C'est vous qui avez demandé le divorce ?
Conjointement. Et puis, c'est surtout moi qui ai demandé. Je lui ai dit que moi, je pouvais pas supporter un mari qui me trompe, c'est pas possible. Je me suis pas mariée dans cet esprit.
Bien sûr.
Si vous voulez, on est nombreux dans ce cas-là, donc voilà.
Et votre fils avait quel âge à ce moment-là ?
Quand j'ai demandé le divorce, il avait 5 ans et demi.
Il était fils unique ?
Pardon, il ?
C'était un enfant unique, il n'y a pas de frères et sœurs.
C'était un enfant, oui, j'ai pas pu en avoir d'autres parce que je suis diabétique et... il fallait que j'en ai qu'un.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Vous êtes partie avec lui ? C'est vous qui en aviez la garde ?
Ah oui. Moi, j'avais la garde de l'enfant. Et puis, son père, après, m'a disputé la garde et m'a dit que ce serait bien qu'il le récupère un peu. Mais moi, je pensais qu'on pouvait faire ça comme ça à l'amiable, sans passer devant les juges et tout. Et son père a exigé qu'on passe devant un juge. Donc lui avait refait sa vie. Et j'ai su par mon fils qu'il avait des mauvais traitements par sa belle-mère. À partir de ce moment-là, j'ai revu des juges. Et j'ai fait un procès pour le récupérer. Parce que je ne pouvais pas supporter qu'il soit malheureux. Mon fils m'a parlé d'une... Qu'on le battait avec une ceinture et tout, donc j'ai pas supporté. Donc il est revenu avec moi, et moi, entre-temps, j'ai connu un deuxième homme, et je me suis remariée avec lui, peut-être 6 mois, 8 mois après, je sais plus. Et le problème, c'est que ce monsieur était pervers narcissique, et il ne supportait pas mon fils. Donc, il l'éloignait du logement,
Est-ce que ce monsieur avait des enfants ?
Non, pas du tout. Non. Pas du tout.
Mais donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre fils a été au centre de nombreux conflits d'adultes.
Voilà, tout à fait.
Il s'est trouvé tiraillé dans des histoires de tribunaux, de déchirements, de règlements de comptes.
Oui, tout à fait. Les tribunaux, il n'était pas au courant. Enfin, je veux dire, il n'était pas... Je l'éloignais de tout ça. Je réglais ça avec mon premier mari, puis après mon deuxième. Mais
les enfants sentent les tensions, vous savez.
Ah oui.
Évidemment, quand ils sont petits, ils comprennent pas exactement ce qui se passe, mais ils comprennent, ils comprennent le chagrin d'une maman, ils comprennent la souffrance, ils comprennent les tensions.
Ouais. De toute façon, un jour, quand son père est parti, il est venu. J'étais sur un petit banc assise, je pleurais. Et il est venu près de moi, puis il a mis sa main autour de mon cou, et puis il m'a dit, t'en fais pas maman, moi je suis là. Moi j'ai dit, oui, bien sûr, mais j'étais un petit peu écrasée par le chagrin, et puis voilà, quoi, c'était dur à remonter.
Il avait quel âge quand vous avez rencontré ce monsieur, le deuxième ?
Oh, il avait 6 ans et demi.
Oui, tout de suite dans la foulée, quoi.
Dans la foulée, oui.
Et vous me dites ce monsieur a éloigné votre fils. Comment on peut éloigner un enfant de 6-7 ans ?
Ah, je vais vous dire. Par exemple, un jour, comme il était manipulateur, il y avait des moments, j'arrivais même plus à lutter contre ce qu'il voulait faire. Et un jour, il m'a dit on va aller au parc, je ne sais plus lequel, pour aller voir les animaux, les attractions, etc. Ben, je lui ai dit on va attendre que Frédéric rentre. Oh pardon, excusez-moi. On va attendre qu'il rentre de l'école et puis on va l'emmener. Et il m'a dit non, on y va tous les deux. Et puis tout était comme ça, où il l'envoyait chercher par exemple un journal très très loin dans une librairie, où il essayait de l'éloigner le plus souvent possible de moi, et ça je ne supportais pas.
Combien de temps ça a duré?
Oh, écoutez, on a quand même duré ensemble une dizaine d'années quand même.
Donc c'est 10 années supplémentaires durant lesquelles votre fils n'a pas trouvé sa place.
Ben oui, d'autant plus que comme ce monsieur faisait du maquettisme, il travaillait dans son atelier, on habitait un très grand appartement dans Paris, et le petit avait sa chambre, et moi ce jour-là je préparais le dîner, et j'ai entendu des bruits, je me suis dit, oula, il y a un problème. Et mon fils avait envoyé un coup de poing dans la figure de son beau-père parce que il supportait plus la façon dont il me traitait. Et il a demandé à ce que le gamin parte de l'appartement. Je lui ai dit non, je suis locataire au même titre que toi, mon fils, je l'héberge. Donc il reste à la maison. Non, il s'en va. Alors ce que j'ai fait, j'ai dit au petit, tu vas vite voir le commissaire et tu lui demandes de rappeler à la maison. Et il a rappelé à la maison plus quelques temps après. Et mon mari lui a dit, oh ben c'est une histoire de dispute entre hommes. Voilà, bon, c'était pas plus grave que ça pour lui. Et à partir de là, la vie a été intenable.
Comment étaient vos relations avec votre fils pendant ces 10 ans-là? Juste lui.
Moi, j'essayais d'être le plus proche de lui, mais vous savez, c'est difficile, un enfant qui est perturbé par un adulte comme ça. Puis je ne savais pas comment lutter contre mon mari. C'était ça le problème.
C'est ça, c'est qu'en fait, peut-être parce que vous étiez sous l'emprise de cet homme, vous avez laissé faire ça pendant 10 ans.
Ah, je n'ai pas laissé faire ça pendant 10 ans. Parce que il allait chez ses grands-parents, il allait chez des amis à côté, il allait j'essayais de faire en sorte qu'il ait une vie quand même agréable, mais c'était pas toujours évident. Et puis mon mari était très menaçant, donc un jour j'ai reçu le grippin à travers la figure, donc voilà. Enfin,
c'est ça ce que je vous disais, c'était déjà tellement difficile pour vous.
Oui.
Que vous n'avez pas réussi à vous sortir de là, ni lui ni vous, avant 10 ans. Mais quand vous en êtes sorti, il avait quoi? Il avait 17 ans à peu près, votre fils? Vous avez quitté cette
maison? Quand j'ai divorcé, oui, il avait, oh, je ne sais plus quel âge, il avait 15, 16 ans, 17 ans, je ne sais plus.
Il était encore chez vous, en tout cas, il n'était pas encore majeur.
Ah oui. Ah oui, absolument. Je lui avais d'ailleurs acheté une très belle chambre bateau, enfin... Vraiment, je faisais tout pour qu'il ait tout le confort et qu'il soit bien heureux. Il avait le droit de recevoir ses copains. J'avais même pris un lit avec un lit en dessous pour recevoir un copain. Enfin, j'essayais de faire en sorte qu'il ait... Et puis, comme je travaillais, moi, en horaire décalé, c'était pas toujours évident non plus.
Bien sûr.
Donc voilà, j'ai...
Et à ce moment-là, est-ce que vos liens se sont resserrés quand vous êtes retrouvés seuls tous les deux à nouveau?
Ah oui, absolument.
Oui.
Et quand il était petit, c'était l'amour fou tous les deux. C'était vraiment le l'amour fou. Et là, je n'arrive pas à comprendre. Là, il a une petite amie. Bon, je crois qu'elle l'accapare beaucoup. Mais
alors justement, attendez, pour bien comprendre, Chantal, j'ai besoin de continuer sur le fil de manière hiérarchique.
Oui.
Donc quand vous divorcez, vous restez avec lui quelques années?
Ah oui.
À quel moment il s'en va de chez vous?
Oh, il est parti vers 18 ans. Parce qu'il voulait, habiter tout seul dans un studio. Donc,
tout seul, pas financé par une femme, juste tout seul pour faire sa vie. Quoi.
Non. Et j'ai réussi à obtenir que son père paye la moitié du loyer. Mmh. Voilà. Et la seule chose, je lui avais dit, écoute, l'électricité, tu te la payes parce que c'est tes dépenses à toi. Donc, bon, c'est pas énorme. Donc, voilà. Mais on te paye le loyer, il n'y a pas de souci.
Mais vous n'étiez pas fâché du tout à ce moment-là?
Ah, pas du tout.
Non,
pas
ça
du
allait
tout,
bien.
Pas du tout,
il y avait, une communication.
Ouais. Oui, non, non, tout allait bien. Et là, depuis quelques années quand même, il ne me souhaite plus ni la fête des mères, ni mon anniversaire, ni Noël.
Mais alors, quand est-ce que ça a commencé? Parce que là, vous passez d'une période où il a 17-18 ans à aujourd'hui où il en a 41. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle?
46.
Hein. Ah, 46, carrément, d'accord.
46, oui.
Donc, il y a eu quand même beaucoup d'années qui se sont déroulées.
Bah, disons que...
Quand est-ce que vous avez l'impression que ça a commencé, vous, à dégénérer cette relation?
Oh là, je suis... Vous savez, je suis percue de douleur, je ne suis pas bien du tout, donc les dates, là, en ce moment, c'est un petit peu difficile pour moi de... Faudrait que je...
Non, ce n'est pas une question de date, hein, c'est des étapes de vie. Ce qu'on va faire, Chantal, c'est qu'on va faire une toute petite pause, là, et je vous récupère dans un instant, si vous le voulez bien, puis on essaiera de comprendre étape par étape ce qui a pu se passer de son côté, dans sa tête. D'accord?
D'accord.
Merci
d'accord,
à vous, à tout de suite.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant « nuit » au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Chantal, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, on va essayer de dérouler le fil pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais vous savez, c'est pas parce que la communication est cassée que l'amour est cassé. L'amour entre une maman et son fils, ça se casse pas. Ça peut pas mourir. C'est la communication qui est cassée, mais pas l'amour.
Oui.
Et ce que je cherche à comprendre, c'est à quel moment la communication a commencé à s'abîmer et pour quelle raison? Donc vous dites qu'il est parti de chez vous, il a vécu seul. J'imagine qu'à un moment donné, il y a eu une première petite amie qui est arrivée dans sa vie, quelqu'un.
Oh ben oui.
Et
oui.
Ça a été comment? Est-ce qu'il a construit une vie de famille? Est-ce qu'il s'est marié un jour?
Non, pas tout de suite. Non, c'était une petite amie. Mais il est très curieux parce que si vous voulez... quand je l'avais avec moi, j'avais pris un deux pièces après avoir quitté mon mari. Donc il avait, je lui avais installé un canapé dans le salon et ça lui servait de chambre puisque nous n'avions que deux pièces. Et un jour, il a reçu une petite amie. Il m'a interdit de la voir. Il m'a enfermé. Ma clé de ma chambre était sur la porte extérieure. Il m'a enfermé à clé pour pas que je voie la petite amie. Je ne l'ai pas vue jusqu'au lendemain matin. Il l'a fait petit déjeuner, elle a fait sa toilette, ils sont partis. J'ai jamais connu la petite amie. Ah, mais il est très très curieux. Hein.
Oui, c'est plutôt maladroit, on va dire, pour être gentil. Mais enfin bon.
Oui.
Mais plus tard, au fil des ans, est-ce qu'il s'est posé avec une femme?
Oui, puisque maintenant il a deux petites filles.
Oui.
Avec une charmante belle-fille, avec qui j'ai des rapports tout à fait corrects et très cordiaux. Elle m'amène de temps en temps les enfants. Et là, ça fait un petit moment que je ne les ai pas vus. Donc, j'ai deux petites filles. Il y en a une qui a eu un portable et qui m'a dernièrement laissé un petit message me disant « Bonjour mamie, c'était pour prendre de tes nouvelles. » Donc moi je lui réponds, je l'appelle et je ne veux pas trop la déranger non plus. Et donc ça se passe très bien avec ma belle-fille. Et
ça, c'est extrêmement important. Attendez, si vous vous rendez compte, ça, Chantal, c'est un point extrêmement positif.
Ah oui.
Donc ça veut dire déjà que ce n'est pas elle qui fait un barrage quelconque ou qui a une influence sur son mari.
Ah non, oui.
Donc ça, c'est déjà très très bien. Ça veut dire qu'elle vous apprécie. Quel âge ont vos petites filles?
Alors, la première, la plus âgée, elle a eu 10 ans au mois de novembre. Et la deuxième, elle a eu 7 ans au mois de mai.
D'accord. 10 ans, ça veut dire qu'elle va aussi entrer dans une période où elle sera peut-être un peu plus autonome pour prendre contact avec vous.
Tout à fait.
Quand on commence à rentrer dans la préadolescence et l'adolescence, on peut aller voir sa mamie, on peut lui téléphoner plus librement aussi. Quoi.
Voilà.
Si la maman n'est pas hostile, c'est déjà formidable pour vous.
Non, la maman n'est pas du tout hostile, il n'y a pas de souci. Bon, pour l'instant, je ne suis pas en état physique de recevoir qui que ce soit. Parce que bon, je suis très mal. Il faut que je trouve une solution à mes douleurs. Parce que là, je ne vais pas tenir le choc longtemps. Non, avec ma belle-fille, ça va très bien. Avec mes petites filles, ça va très bien. Et je sais qu'elles m'aiment beaucoup. Elles m'envoient énormément de dessins. J'ai décoré toute l'entrée avec tous leurs dessins. tellement il y en a.
Et alors ça, c'est formidable. Et donc, oui, votre fils, oui, vous avez l'impression qu'il prend, ses distances sans vous expliquer,
oui,
pourquoi?
Ah ben, je ne sais pas.
Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit, je l'ai invité à déjeuner ou à dîner, mais il n'a fait qu'écouter ses copains. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que pendant tout le repas, il a eu des coups de... Je lui avais demandé d'éteindre son portable. Parce que je lui ai dit, si je t'invite au resto, c'est pour qu'on parle.
Ben oui.
Qu'on mette à plat tous les problèmes. Donc, je lui ai dit, pour moi, je ne vois pas les problèmes, mais tu vas me l'expliquer. Et pendant tout le repas, il a eu des coups de fil de ses copains. Et à chaque fois, je lui disais, bon, ben écoute, ça serait gentil que tu fermes ton portail, mais il me répondait, ah non, 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 les copains, ça passe avant. Et alors ça, les copains, ça passe avant. Donc, voilà.
Ouais, j'ai l'impression que chez lui, il y a quelque chose qui est bloqué, qu'il n'arrive pas à sortir.
Eh bien, voilà. Eh oui. Mais alors, je ne sais pas comment faire. Là, je suis... Là, j'ai tout essayé, le resto, le courrier. Bon.
Lui dire, qu'est-ce que vous avez mis dans ce courrier?
Ah, bah, ça faudra que je vous rappelle parce que non, mais j'ai mis la lettre quelque part.
Dans les grandes lignes, quelle était l'intention?
En grande ligne, ben, c'était lui demander pourquoi il avait une telle attitude envers moi que je ne comprenais pas. Et moi, j'assimile ça à la mésentente enfin, avec son père et le divorce avec son père. Je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre. Donc c'est... Puis si, il m'a reproché des trucs complètement délirants, c'est-à-dire il m'avait offert un poste de télévision, mais à l'époque, vous savez, c'était les postes très, très épais. Mmh. Et puis sont arrivés les postes à écran plat. Bon, ben, j'ai voulu faire comme tout le monde, m'acheter un écran plat. Alors il m'a reproché d'avoir vendu le poste. Voilà.
Oui, ça sent un peu le prétexte, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien plus profond. Je pense qu'effectivement, il doit vous en vouloir pour pas mal de choses. En vouloir à la vie, plus généralement, parce que l'histoire que vous me racontez, elle n'est pas facile pour le petit garçon qu'il a été.
Ah non, 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 mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais
il doit y avoir des colères bien rentrées dans son cœur.
Voilà, il a une colère bien rentrée. Et il n'y a qu'avec moi qu'il est comme ça.
C'est malheureusement logique. La maman sert toujours de punching ball. Bah oui, parce que vous êtes la plus proche de lui, émotionnellement.
Ah oui.
C'est pour ça que je vous disais que l'amour ne meurt pas, c'est la communication qui casse.
Oui, alors, mais comment faire revenir la communication? Là, je ne sais pas.
Alors, je pense que la première chose, c'est d'éviter les reproches, d'éviter les tuer comme ça. Dis-moi pourquoi tu es comme ça. Je crois qu'il ne peut pas l'exprimer. S'il pouvait, il l'aurait déjà fait. Je pense qu'il n'en est pas... On ne l'a peut-être pas appris non plus à communiquer, à dire ses sentiments, ses émotions. Est-ce qu'une fois dans sa vie, il a rencontré un thérapeute? Est-ce qu'il a appris à se confier?
Ah non, 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 non. Il m'a dit que c'était moi. Il m'a dit que c'était moi qui devais rencontrer un thérapeute, mais que lui n'en avait pas besoin. Je lui ai proposé, mais non.
Oui, mais le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, il garde tout à l'intérieur. Est-ce que votre belle-fille ne pourrait pas vous servir un petit peu d'intermédiaire?
J'ai l'impression que c'est la guéguerre entre eux. Hein. C'est où?
Peut-être que si vous lui demandiez...
Elle n'a plus trop envie de le voir, et lui, il n'a plus trop envie de la voir non plus. Alors.
Ah oui, mais alors il va reproduire un schéma de divorce, là, c'est ça que vous me dites?
Ben, ce qu'il y a, c'est que ça m'a beaucoup embêtée quand il a quitté ma belle-fille, parce que elle lui assurait l'équilibre financier, enfin, tout, c'était une vie stable avec elle.
Attendez, vous ne m'avez pas dit qu'il l'a quittée?
Ah, je ne vous l'ai pas dit, ah ben si.
Mais
ça
quand?
Ça fait au moins 3 ans, 3-4 ans.
Ah, d'accord, donc ils ne vivent plus ensemble.
Non, 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 non. Enfin, ils communiquent pour les enfants, puisqu'il faut bien qu'ils se voient pour quand il va chercher les enfants, un week-end sur deux.
D'accord, je n'avais pas compris qu'il était séparé de cette femme. Mais peut-être qu'en lui parlant à elle, vous pourriez avoir quelques informations, savoir si un jour votre fils a mentionné, je ne sais pas, des rancœurs, des colères, des choses qui sont coincées chez lui contre vous.
Oui, ça, je peux la contacter, il n'y a pas de souci, j'ai aucun souci de la contacter.
Lui dire que ce n'est pas pour l'embêter, mais que vous aimeriez comprendre ce qui se passe.
Oui.
Peut-être qu'elle ne sait rien, parce qu'il ne s'est jamais ouvert à elle non plus, j'en sais rien, mais peut-être qu'elle a un point de vue sur cette histoire, sur votre histoire,
oui,
à vous deux.
Ben, peut-être, oui.
Si elle est bienveillante envers vous, elle devrait pouvoir vous tendre la main.
Ah oui, elle est bienveillante, elle est très gentille, il n'y a pas de souci.
Ça, c'est déjà une chance énorme. Hein.
Moi, je ne suis pas en colère contre les gens, je ne suis pas en guerre contre les gens, mais là, avec mon fils, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas par où commencer parce que J'ai pas de solution et là je suis très mal quoi.
Son papa est toujours là?
Oui, son papa il habite sur la Côte d'Azur et j'ai cru savoir que à chaque fois qu'il allait passer des vacances chez son père et sa belle-mère, bah, il y avait des tensions et qu'en général il terminait pas les vacances chez son père à cause de la belle-mère.
Donc c'est pas non plus de ce côté-là que la communication va s'apaiser, s'établir.
Ah non, de ce côté-là, ce côté-là, alors là, je pense que c'était le père, tel fils, donc malheureusement, j'ai pas beaucoup d'aide.
Mais est-ce que vous pourriez, parce qu'il y a quand même quelque chose que j'entends dans votre histoire quand je vous dis que l'amour ne meurt pas, il prend de vos nouvelles quand même. On dirait qu'il est tiraillé entre je laisse un message, je prends des nouvelles et puis après je réponds plus.
Oui, c'est-à-dire, voilà, c'est ça. Là, ce matin, j'ai eu un message. En plus, j'ai un portable qui n'appelle pas quand on m'appelle, mais qui met ça en messagerie. Alors, c'est très mal commode, mais enfin, bon, bref. Mmh. Et j'ai découvert le message. Donc, j'ai écouté. Et oui, je viens prendre de tes nouvelles. Rappelle-moi. Et depuis ce matin, j'essaye d'appeler. Et depuis ce matin, c'est répondeur.
C'est ce qui me fait penser qu'il y a comme une guerre interne dans son cœur.
Ah oui.
Il y a une partie de lui qui aimerait bien retrouver sa maman, il y a une partie de lui qui est en colère ou qui a quelque chose qui coince.
Ah oui, mais...
Et peut-être pourriez-vous lui écrire, puisque a priori la communication verbale est difficile, surtout si s'amuse à rester derrière son portable, ça aide pas.
Oui,
mais simplement en lui disant, écoute, voilà chérie, je sais pas exactement ce qui se passe, mais je te demande pardon si dans, au cours de ta vie d'enfant, de petit garçon, t'as pas eu tout ce que tu espérais. Si la vie n'a pas été exactement comme tu aurais voulu qu'elle soit, j'ai fait de mon mieux. Peut-être simplement lui dire ça, lui dire c'est la vie est courte. J'aimerais bien qu'on se parle de tout ça. Mais pas lui dire tu. Dis-moi pourquoi tu es comme ça, explique-moi pourquoi tu fais ça, parce que la porte ne va pas s'ouvrir. Il va se braquer derrière sa fierté, sa colère, ou je ne sais pas, mais ça ne s'ouvrira pas. Mais si vous lui disiez simplement, voilà, je te demande pardon pour peut-être les choses que j'ai pas faites, que tu aurais voulu que je fasse, j'en sais rien. Mais le pardon... Commencez une conversation par « Pardon, je t'aime ».
D'accord.
Et puis derrière, le laisser parler. Sans reproche, sans réflexion,
oui,
sans pourquoi.
Là, je ne fais pas de reproche. Hein, parce que je sais que de toute façon, il va se braquer. Donc,
Il l'est déjà. Je pense qu'il y a quelque part en lui, il y a quelque chose qui est coincé. Et qu'il faudra probablement beaucoup de douceur pour arriver à ouvrir tout ça. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est effectivement que vous avez eu des gros soucis de santé et que malgré ça, il n'a pas réussi à s'apaiser, à venir vers vous.
Pas du tout.
C'est que chez lui, le nœud émotionnel doit être quand même bien, bien costaud. Vous savez comment il vit en ce moment? Est-ce qu'il a quelqu'un? Est-ce qu'il travaille?
Oui, il travaille. Ça, il travaille, il n'y a pas de souci. Mmh. Il est bien coté dans son travail. Il s'est pris un appartement, donc c'est pas tellement loin de chez moi. En kilomètres, c'est pas tellement loin.
Ouais.
Et il a sa petite amie. Et donc voilà. Mais ce qui est très curieux, c'est que je ne l'ai vu qu'une fois parce que un jour j'avais invité mon fils et mes deux petites filles à déjeuner et il est arrivé avec elles. Bon, j'étais pas prévenue, alors j'étais un petit peu gênée parce que plats, j'avais pas. Bon, bref, j'étais pas prévenue. J'aurais préféré être prévenue. Mais depuis, elle ne m'a jamais téléphoné pendant que j'étais opérée du cœur et elle n'a jamais pris contact avec moi.
Vous ne l'avez vu qu'une fois, donc c'est vrai que c'est un peu
ça. Je l'ai vu qu'une fois.
C'est un peu délicat. Puis si lui est dans une période où je ne sais pas ce qu'il a pu lui dire ou ne pas lui dire.
Mais je ne sais pas.
Donc ça, côté à elle, c'est compliqué de trouver une alliée. C'est un peu léger.
Ah ben oui, c'est un petit peu dommage qu'elle ne m'ait pas appelée parce que on aurait pu lier une relation. Enfin, je veux dire.
Mais tout dépend de ce que votre fils lui dit aussi. On ne connaît pas ce qu'elle entend. Elle.
Voilà.
C'est ça qui est compliqué.
Voilà.
Donc
voilà.
Pour l'instant, vous ne pouvez pas compter sur elle. En revanche, allez vers lui en ouvrant vraiment votre cœur, sans jugement, sans questionnement, sans rien, juste en lui disant, écoute, voilà. Je suis désolée si s'est passé des choses pendant ton enfance qui t'ont fait du mal. J'ai fait de mon mieux. Comment je peux faire aujourd'hui?
Oui.
C'est vraiment ça. C'est pardon, je t'aime, parlons-nous.
D'accord.
Juste ça.
Oui.
Et puis lui rappeler que une maman, c'est sacré, qu'on n'en a qu'une, que le temps passe vite et qu'il ne faudrait pas qu'il regrette un jour de ne pas vous avoir parlé tant qu'il en était temps.
Bah, d'autant plus que là, j'ai failli y passer. Donc, si vous voulez, j'ai eu quand même, en l'espace de trois mois, j'ai eu deux opérations du cœur, j'ai eu un œdème pulmonaire, j'ai eu une infection septique. Et là, j'ai failli y passer. J'ai rien compris de ce qui m'arrivait, mais enfin bon, c'était grave. Donc, c'est vrai que bon, la vie est courte, quoi.
J'ai entendu ça, mais ne lui présentez pas ça comme une menace ou comme
non,
voilà, ça sera trop tard. Simplement,
non, lui dire... je vais suivre vos conseils. Je vais lui écrire en lui demandant pardon, lui disant que je l'aime et lui demandant si il y a des
s'il accepterait un vrai dialogue.
Oui.
Parce qu'une fois de plus, une maman, quelle qu'elle soit et quel que soit l'enfant, ce lien-là, il n'en existe qu'un seul dans la vie.
Oui.
Une maman, c'est unique. C'est pour ça que je vous dis que l'amour, il est forcément là. C'est la communication là qui est complètement rompue. Ou complètement, en tout cas, c'est la communication, la vraie, celle où on se dit vraiment des choses.
D'accord.
Et c'est celle-là qu'il faudrait essayer de rétablir, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Le reconnecter à ça, vous êtes sa maman.
Mais oui, je sais. Vous savez, moi, j'ai ma maman qui a 98 ans et qui, je l'appelle tous les jours, une fois ou deux fois par jour. Mmh. Je ne pourrais pas me passer de l'appeler tous les jours, donc, vous voyez. Mais là, moi, j'ai pas le droit au coup de fil et il se met derrière le répondeur. Alors, c'est pas facile, le contact.
Oui, mais quand vous dites « j'ai pas le droit », c'est comme si vous vous mettiez ça sur le dos. C'est lui qui est en souffrance et qui a un problème, un blocage. Je pense, enfin, c'est pas pour vous faire du mal. Je crois qu'il n'y arrive pas. Parce que si c'était clair dans sa tête, il aurait coupé les ponts avec vous. Je pense tout simplement.
Ben oui.
Mais là, on sent qu'il les a pas coupés. Il vient quand même quand vous êtes à l'hôpital.
Non, il
laisse un message. Donc il doit probablement être extrêmement tiraillé.
Oui.
Et ce qu'il faudrait arriver à faire avec lui, c'est à lui faire déposer les armes, quoi.
Oui, ça.
Juste.
J'ai essayé, mais.
Juste parler à son cœur avec beaucoup de douceur et le plus d'amour possible et lui demander si vraiment il accepterait un vrai dialogue.
D'accord.
Parce que vous avez besoin d'apaisement et je suis persuadée que lui aussi, qu'il sera bien plus heureux aussi après.
Ah ben moi, je préférerais retrouver une entente cordiale et affectueuse avec mon fils. Hein.
C'est pas une entente c'est sûr, cordiale, ça, Chantal, c'est une relation de maman.
Ben oui, je sais. Et si vous voulez, je suis tellement habituée à ne plus avoir d'appels, à ne plus avoir de contacts, que ça commence à me faire souffrir, quoi.
Faites ça rapidement. Envoyez-lui une lettre sans aucun reproche, sans aucune question. Simplement cette ouverture de cœur et cette lumière que vous lui proposez de retrouver. Après, à lui de voir.
D'accord.
Prenez bien soin de vous.
Je vous remercie.
Et je vous embrasse très fort, Chantal. Merci de votre
appel. Merci, moi aussi. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute. La libre antenne, Sabine Marin.
Et c'est Stéphanie que j'accueille maintenant. Bonsoir, Stéphanie.
Bonsoir.
Bienvenue.
Oui, je vous remercie. Ben, bonne année aussi à vous.
Merci.
C'est vrai que je vous écoute régulièrement, peu importe le psychologue qui est à l'antenne. Et je peux dire aussi que j'ai été interpellée par certains critères que la personne d'avant moi a désigné sur son fils, parce que il y a des ressemblances avec ce que je vis avec le mien, quoi.
Oui, racontez-moi.
Alors, moi, j'ai donc un fils unique. Je me suis mariée, donc, voilà, et on a eu notre fils. Et il est parti lorsque notre enfant avait 9 mois chez sa mère, le papa. Il voulait travailler proche de sa mère. Moi, je me suis retrouvée seule avec mon fils et il arrivait tous les 15 jours.
Pourquoi il a fait ça ? Ça n'allait pas entre vous ?
Si, ça allait. C'était quelqu'un, normalement, qui ne travaillait pas, il ne souhaitait jamais travailler, mais en fait, je suis arrivée dans une région où j'avais ma sœur qui était installée, et comme sa famille, à lui, était très distante et froide avec moi, et qu'il y avait des problèmes, donc j'ai voulu me rapprocher de mon côté familial, si on peut dire entre guillemets, quoi. Mm-hmm. Tout en n'étant pas du tout collée à eux, puisque en fait je n'ai pas du tout de famille, quoi. J'ai une sœur, mais c'est comme si j'en avais pas. Voilà, elle a connu son mari à l'âge de 16 ans, qui est médecin généraliste, et donc à l'âge de 16 ans, elle a complètement changé. Et elle m'a oubliée, elle a oublié tout le monde. Et enfin, tout le monde, c'est pas grand monde, puisque moi, j'ai été élevée par mes grands-parents. Et enfin, ça me permettait d'être loin de sa famille à lui, qui se résumait seulement à son frère, sa belle-sœur et sa mère. Mais c'était très pesant. Et lui, étant donné qu'il ne travaillait pas, je pense qu'il a eu peur que ma mère lui saute dessus en disant « tu vas te mettre à travailler », etc. Parce qu'elle est très... Je la vois presque pas non plus. À l'époque non plus, d'ailleurs. C'est pour ça que je dis ma mère, mais en fait, bon, il faut bien que je cite des choses. Enfin, et donc, il a tout fait. Il me disait qu'il allait promener le chien le matin et... En fait, je me suis aperçue que pendant trois quarts d'heure, il était au téléphone, à la cabine téléphonique, le chien était attaché et c'était pour discuter et essayer de faire en sorte d'avoir un travail en Bretagne, là où est sa mère. Et comme son frère était ingénieur et il avait un bras très très long dans toute la moitié de la France, voilà, il a réussi à se faire embaucher dans une entreprise alors qu'il a jusqu'à présent jamais rien fait pour trouver pratiquement un emploi, quoi. Et moi, je lui dis, ben, je pars avec toi, on s'installe à Nantes. Et sa réponse a été non. Donc, je suis restée, c'est pas vraiment l'Aquitaine, c'est un peu plus haut, mais on va dire l'Aquitaine. Et puis donc...
Mais pardon, mais pourquoi non, il a justifié ça?
Que mon fils et moi ne le suivent pas?
Ben oui.
Non, j'ai été choquée parce que il a dit qu'il ferait la route tous les 15 jours, chose qu'il faisait d'ailleurs, en me demandant de l'argent. Il travaillait, mon fils avait 9 mois, donc il travaillait là-bas en Bretagne, dans une usine, donc il gagnait un peu plus que le SMIC, enfin, voilà. Et donc, sa mère l'entretenait, mais il l'entretenait au niveau de ses dépenses voiture, essence, tout, quoi. Et moi, il me demandait quand même de l'argent, qui était assez important tout de même, et je le donnais jusqu'au jour où je me suis aperçue qu'il arrivait même à piquer un chèque, donc de manière très vicieuse, c'était au milieu du carnet, quoi. Voilà, donc, et je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans la violence de la discussion, mais je veux comprendre quand même, quoi. Et en fait, il me disait que j'étais que j'avais le ver dans le fruit, que je devinais toujours tout, que c'est pas possible ça. Enfin, j'avais pas droit d'avoir de réponse. Et non, j'ai été choquée parce que surtout Nantes, c'était pas loin de là où habitait sa mère, à une centaine de kilomètres, et j'en demandais pas tant, quoi, parce que moi, là où j'étais et où je suis encore, rien ne me retenait, hein. Voilà, je le suivais, je faisais tout pour mon fils, mais
en tout cas,
non.
Vous l'avez pas suivi puisqu'il l'a pas souhaité. Et comment s'est passée la vie à ce moment-là, seule avec un bébé?
Oui, alors il arrivait tous les 15 jours, et puis donc mon fils, je me suis retrouvée seule, et en même temps, je vais vous dire, j'ai soufflé d'un seul coup, quoi. Parce que j'avais un seul enfant à charge et non plus deux. J'ai un ex-mari, c'était un grand enfant. Autant son frère était ingénieur que lui n'a pas réussi aux études, mais un grand immature. Ensuite, quand même, je voulais pas ça pour mon fils. Donc, régulièrement, je lui disais, tu repars pas, tu m'emmènes. Alors, il arrivait parfois que je monte dans la voiture avec mon fils et qu'on aille chez sa mère. Alors,
Stéphanie, pardonnez-moi, on va devoir faire une pause parce que les informations arrivent.
D'accord, entendu.
On va essayer d'aller un peu plus droit au but après la pub,
ouais,
s'il vous plaît.
Ça serait mieux, ouais.
D'accord.
D'accord.
Je vous récupère dans un instant, merci.
Merci. Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin. Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Ça veut dire qu'il nous reste une petite heure à passer ensemble. Si vous souhaitez prendre la parole sur cette libre antenne, c'est facile. Vous pouvez continuer à nous appeler au 3921. Amandine et Hassan sont disponibles pour vous accueillir en toute bienveillance et vous accompagner jusqu'à moi. Quel que soit le sujet qui vous préoccupe, quel que soit le thème dont vous avez envie de parler, vous êtes les bienvenus. Et si vous avez envie de participer à l'émission par SMS, c'est facile. Vous faites le 739-21 en commençant par le mot nuit.
23h, 1h. La libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et on va retrouver Stéphanie. Stéphanie, vous nous disiez avant la coupure info que votre mari a décidé de trouver, à l'époque, avait décidé de trouver un travail loin de chez vous et qui vous avait dit gentiment, bah non, tu ne me suis pas, tu restes à la maison avec notre fils. C'est ça ?
Voilà. Voilà. Et je vais faire un très grand bond en avant parce que j'ai du mal, forcément, c'est le début. Voilà. Et donc, j'ai attendu l'âge des 3 ans de mon fils pour faire une demande en divorce, puisque lui était parti de la maison, je ne le voyais pas, et mon enfant ne voyait plus son père non plus.
Donc il ne rentrait pas tous les 15 jours comme promis ?
Après, non, parce non. qu'il a là-bas rencontré, mais en tout bien tout honneur, une voyante qui lui a conseillé de rentrer dans un réseau fort bien connu. Et Donc, il s'est détaché complètement de moi, je n'existais pas, quoi. Et son fils non plus n'existait plus. Une fois, je suis allée à un rendez-vous et puis, bon, à la maison, je l'ai retrouvée ouverte. Le petit avait seulement 2 ans et il a monté l'escalier de meunier pour se protéger, heureusement ça, parce que un quart d'heure après, le père était de retour, quoi. Mmh. Donc, et là, il y avait une rue à côté. Donc voilà. Alors ça s'est passé comme ça, donc divorce. Donc et pendant 3 mois, il a pris son enfant. Il a demandé les mercredis et les week-ends, comme et il a fait ça pendant 3 mois. Après, il a complètement oublié son fils, malgré qu'il habitait à 5 minutes chacun l'un et l'autre. Les maisons étaient à 5 minutes l'un de l'autre.
Est-ce qu'il a eu d'autres enfants avec une femme ?
Non, il a rencontré personne, et moi non plus, je n'ai rencontré personne. Donc ça fait plus de 20 ans que je suis voilà, seule, et lui pareil. Mm-hmm. Et il ne s'est jamais intéressé à son enfant, il ne l'a jamais pris. Voilà. Et la seule fois qu'il lui proposait de venir éventuellement, c'était pour aller chez sa mère en Bretagne. Mais mon fils avait 6 ans et ça lui faisait peur toute cette longue route. Une fois, il l'a suivi, mais je me souviendrai toujours de sa tête qui me regardait à la fenêtre, dans la voiture. Et il avait peur, quoi, cet enfant. Et je sais qu'après, il a refusé d'y aller, il trouvait ça trop long. Mais je... Voilà. Et alors ensuite, donc, comment a grandi mon enfant ? Alors moi, j'ai tout fait par contre, hein, parce que j'ai fait le papa et la maman, on a été à la pêche, on a fait beaucoup de sport, on a fait un peu de tout parce que je suis un vrai garçon manqué. Je lui ai fait découvrir plein de choses. Il avait du mal à suivre à l'école. Enfin, je l'ai vu surtout dans les premiers instants, en fait, parce que... Il est arrivé 3 ans, donc en petite section, il savait tout de beaucoup de choses, mais pour écrire son prénom, il mettait à l'envers ou alors il savait plus. Donc, pendant un an, j'ai dû lui montrer quoi pour ne pas qu'il soit en difficulté à l'école. Donc j'avais déjà noté quelque chose comme ça. Mmh. Et sinon, partout, il se faisait remarquer dans le sens que oh là là, qu'est-ce qu'il parle bien, même par le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce que il connaît tous les animaux, il connaît toutes les couleurs, il est en avance, il ne suit pas les autres, il a sa propre personnalité. Mais tout ça, c'était mon éducation à moi. Je lui parlais comme une personne. C'était mon fils. Je l'éduquais en le faisant monter, quoi. Je l'élevais, en mm-hmm. fait. Voilà. Très, très psychologue, mais. Voilà. Et puis, alors, il a eu quand même des problèmes, mais il ne grandissait pas. Donc, je me suis débrouillée toute seule pour le faire monter à Paris. Et l'hôpital Necker m'a dit que c'est une urgence totale. Donc, vous avez bien fait de nous contacter.
Il grandit, aussi... Attendez, Stéphanie, allez-y doucement. Il ne grandissait ouais. pas, c'est-à-dire physiquement?
Non. C'est-à-dire
sa croissance s'est arrêtée?
Il est né avec 47,5 cm et 3,60 kg. Mais tout petit, c'est le cas de le dire, il était trop petit. Je m'en rendais compte quand même, il avait une tête de moins que les autres, mmh. mais tous les médecins et les pédiatres me disaient non, mais c'est normal. Et ils se faisaient pipi dessus la journée et la nuit aussi, l'énurésie. Mais là aussi, c'était normal, jusqu'à l'âge de ses 7-8 ans, c'était normal, il jouit, il ne va pas aux toilettes, etc. Donc c'était le psychologue scolaire, donc aux intercours, tu vas aux toilettes. Mais il me dit, mais maman, mais j'ai pas envie d'aller aux toilettes. Ben, je lui ai dit, mais il me dit, n'y va plus, t'as pas envie, qu'est-ce que tu veux, t'as pas envie. Moi, je savais que le problème était ailleurs.
Alors, il était où le problème?
Ben, j'ai écrit un équerre. J'ai écrit à Necker, alors déjà, Necker, donc c'est le professeur Polak qui m'a eu au téléphone, j'étais étonnée, il m'a dit, j'ai jamais vu ça, vous venez tout de suite, je ne peux rien savoir. Donc j'arrive, je reste une semaine à Paris avec mon fils, heureusement que j'ai eu un employeur très sympa, et donc il a eu toutes les radios, et donc c'est l'hypophyse qui fonctionnait à zéro pratiquement. Donc il ne pouvait pas grandir cet enfant, sauf si je lui faisais la piqûre d'hormones de croissance.
Hormones de croissance, oui, c'est ça.
Voilà, donc il a eu l'hormone de croissance pendant 10 ans. Et malheureusement, comme il a été, comme là où j'habite, les médecins et pédiatres n'étaient pas compétents, eh bien, au lieu de faire 1,85 m, il fait 1,77 m. Enfin, en tous les cas, il en est content.
Oui,
voilà, c'est correct. Mais Polak s'est tiré les cheveux pour pouvoir attraper tout ça. Mais il m'a dit, face à des marchands de frites, on ne peut rien faire. Hein. Et puis un jour, voilà, il s'est rendu compte. Moi, je ne voulais pas tout mélanger. Mais il me dit, mais il mouille son caleçon. Et j'ai dit oui, mais c'est la journée même. Il fait pipi dessus. Alors là, il a explosé. Et il m'a dit, c'est pas possible, ça se soigne comme de rien, ça. J'ai dit, mais non, je vais au psychiatre pour lui. J'ai eu le minérin aussi. Il m'a dit, mais vous n'avez pas posé autre chose. Alors, il me dit, vous revenez la semaine prochaine. C'était incroyable. Et j'ai eu donc un médicament avec le professeur Arsan, de Necker aussi. Il l'a vu 5 minutes. Il a eu mon petit gars, etc. Et mon fils était choqué. Il m'a dit, mais maman, il va falloir... il nous a pris pour un idiot parce qu'il rigole. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, je répéterai tout au professeur Polak. Et en fait, c'était le ditropan, et le ditropan était magique, puisqu'en 3 jours, mon fils n'a plus du tout été. A fait pipi le jour, et il n'a plus du tout fait pipi au lit non plus, quoi. Lui, il se souvient de ça, c'est très frais dans sa tête, ça a été complètement magique, parce que c'était horrible, je l'habillais en noir en bas, et il
Stéphanie,
se sentait pas...
vous voulez en venir où?
Alors, moi, aujourd'hui, j'ai un enfant, donc il n'a jamais marché à l'école, mais il a toujours eu de grandes capacités pour réfléchir et pour savoir plein de choses. Mais cela dit, donc l'école, c'était un échec total. J'ai mis dans le privé et arrivé à 16 ans, donc il ne voulait plus du tout y aller. Il ne comprenait pas les maths, ça ne l'intéressait pas non plus, le français, plein de choses, quoi. Donc, il est sorti du système scolaire. Et il est parti chez son père. Pourquoi? Parce que son père passait son temps devant l'ordinateur depuis toujours, quoi, à s'amuser. Et c'est la seule directive qu'il a trouvée. Voilà. Et donc, il revenait quelques jours chez moi. Chez son père, ça se passait mal parce qu'il manque d'hygiène, mais quand bien même, il y est resté totalement, puisque son père lui a acheté tout ce qu'il fallait en ordinateur, en jeu, etc. Et donc, de 16 à 20 ans, impossible de le décrocher de là. Il est devenu complètement addict du matin jusqu'à la nuit, quoi. Et je n'ai jamais décroché, je l'ai poussé à lui parler toujours au téléphone, même si c'était dur, ou le voir sur le trottoir, parce qu'il ne veut plus venir chez moi, chez nous, à la maison, parce qu'il me dit qu'il y a trop de bons souvenirs ici. Donc je l'ai poussé à voir un psychiatre qui est formidable, parce que, voilà, et aussi une association qui lui permettait de travailler un petit peu, même si une heure par semaine, de manière à décrocher de cet ordinateur, quoi. Suite à ça, donc là, ça, et maintenant il a 21 ans, il va avoir 22 donc au mois de février, et donc le psychiatre dit qu'il est dur, il est très têtu, et donc il pense qu'il serait Asperger. Alors,
voilà, ce qui est c'est une forme d'autisme.
Oui, voilà. Mm-hmm. Mais alors, je dois dire que depuis tout petit, il n'a jamais été aimant. Ce n'est jamais un garçon qui m'a présenté de l'amour, quoi. Je me souviens une fois, voilà, il avait un an et demi, il m'a présenté son boudoir. Je lui dis, c'est super, c'est très gentil. Et puis, c'est comme s'il avait reculé dans sa tête, quoi. Il ne me l'a plus jamais reproposé après. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, c'est comme si, tiens, j'ai fait quelque chose de gentil, mais non, c'était bizarre. Et enfin, je ne l'ai jamais ressenti proche de moi, d'autant qu'à l'école, il ne m'a jamais raconté ce qui se produisait à l'école, ce qu'il faisait. Je savais tout par l'intermédiaire des copains. Et il m'a dit, parce qu'il... Voilà, mais l'école, c'est ma vie, j'ai pas envie de le dire. Oui, voilà. Alors, par contre, je le préservais.
Vous savez, Stéphanie, que l'un des premiers symptômes de l'autisme, c'est cette incapacité à communiquer et à surtout à communiquer dans l'amour.
Ah non, ça, je ne savais pas.
Mais vous êtes aidée depuis qu'on vous a parlé d'autisme, vous avez vu des spécialistes ?
Non. Je suis dans une toute petite ville et quand j'ai dit que le psychiatre est formidable, c'est parce qu'en fait, il prend trois quarts d'heure au lieu d'un quart d'heure et puis vous donnez vos cartes vitales et vous payez même si vous n'avez pas fini votre phrase. C'est pour ça. Mais sinon, en fait, il me dit, mon gamin, que il reste un quart d'heure. Il ne parle pas, il n'arrive pas à se confier. Il dit, j'ai rien à dire. Et je lui dis, mais si, t'as beaucoup de choses à dire. Moi, je le sors au maximum. Mais à chaque fois, il me fait des petites vacheries, mais je trouve que c'est assez gros quand même. Par exemple, si je l'invite à faire du vélo, il vient avec moi, mais il demande l'autorisation à son père. C'est assez bizarre tout de même. Et tout ce que je peux dire, c'est nul et négatif. Il était sous médicament pour constipation et il ne prenait pas ses médicaments parce que son père lui a dit que c'était du poison, donc il en était rendu à avoir perdu toute sa masse graisseuse presque. Et je lui ai dit, tu continues une semaine encore comme ça, tu as droit à l'hôpital, c'est très grave. J'avais vu ses petits mollets, c'est pas possible de continuer. Alors là, ça lui avait fait peur, il avait repris. Mais tout comme ça, quoi. Donc tout ce qui est bénéfique, tout ce que je lui dis, parce que depuis l'âge de son CP, ben je le mets en avant, mais je le mets pas en avant hypocritement, c'est parce qu'il le mérite, parce que... Mais il ne me croit en rien du tout. Et par contre, tout ce que lui dit son père, qui est méchant, tu sers à rien, enfin des choses, ça il y croit. Moi, la dernière gentillesse qu'il a pu lui dire, c'est qu'il est beau. Alors, voilà. Et ça, maintenant, il me dit, oui, je suis beau, quoi. Mais je lui dis, mais enfin, depuis le temps que je te le dis, quand même, c'est vrai que c'est un très, très beau garçon. Et voilà, il ne me répond pas.
Non, mais Stéphanie, votre fils... un problème d'autisme, il faut vraiment que vous soyez accompagné par des gens dont c'est la spécialité, que vous compreniez comment il fonctionne. Parce que vous ne pouvez pas mettre une grille de lecture classique sur un enfant qui ne fonctionne pas normalement. Un autiste Asperger, si on ne vous l'a pas expliqué, ce sont souvent des enfants qui sont effectivement extrêmement intelligents, mais qui sont totalement incapables de communiquer leurs émotions.
C'est ça. En fait, il se fait remarquer partout, même au permis, il l'a passé en 3 jours.
Oui, il est brillant. Il a un cerveau qui fonctionne très vite, probablement.
Oui, voilà, très vite, et beaucoup de mémoire. Et en même temps, à l'école, il est nul. Et moi, c'est tout, qu'on a deux intelligences différentes. Moi, j'arrive pas à suivre. Il me dit des mots compliqués. Et moi, je suis très intellectuelle au niveau scolaire. Et pour lui, je suis formidable. Je crois qu'il me met sur un piédestal énorme. Je suis la fille parfaite, quoi. Et je me suis dit, mais non, mais pas du tout. Regarde, tu peux m'expliquer. Ben, ça, je comprends. Le Rubik's Cube, pour lui, c'est très simple. Et moi, il m'a expliqué tout.
C'est un autre mode de fonctionnement. Mais qu'est-ce qui est difficile là pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer?
Voir changer, c'est-à-dire que il n'arrête pas de me trahir. Alors maintenant, donc, il n'a pas passé son examen s'il est Asperger ou pas Asperger, mais il a une pension donc d'invalidité. Il a l'AH malgré tout. Donc, il a un appartement qu'il n'occupe pas. Il préfère occuper les 9 mètres carrés chez son père, donc faire ses besoins dans une bassine apparemment, parce qu'il n'y a rien d'hygiénique. Et je comprends pas. Je lui ai dit, pourquoi tu prends pas ton appartement? Et alors, il me dit, non, parce que la maman de papa a dit que si je pars, j'aurai rien au niveau de l'héritage, quoi. Je lui dis, mais il y aura rien, il n'y a jamais eu de famille, il faut pas t'emprisonner comme ça. Et puis, mamie, à 85 ans, elle va être centenaire. Tu vas pas rester comme ça enfermée, quoi. Il faut grandir. Beaucoup de psychologie. Contrairement à la personne, moi, je ne le bloque jamais. J'essaye de suivre et
contrairement de le rendre... Stéphanie, c'est un petit peu difficile de vous suivre, là. Contrairement à quelle personne?
Par rapport à la personne d'avant où elle disait éventuellement... vous lui disiez, ne dites pas... quelque chose...
Vous parlez de l'auditrice qui est intervenue tout à l'heure, d'accord.
Okay. Ouais, c'est ça.
Ça se mélange un peu, là.
Ouais, mais c'est pas facile pour moi. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je l'invite à l'acrobranche. Quand il monte dans la voiture, tout de suite, il s'endort. C'est comme s'il n'aimait pas ma compagnie. Quand je l'invite à faire du vélo, parce qu'il m'a promis, ouais, d'accord, je veux bien venir. C'est pendant 2 semaines, je suis à galérer. C'est pareil, il ne répond jamais au téléphone. Jamais, strictement jamais. C'est la messagerie. Et quand il veut bien, en fait, il me dit rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Et en fait, il est complètement à l'opposé. Donc, je l'appelle, je lui dis, je suis là. Il me dit, je t'attends à tel endroit. Et alors, il faut que je fasse les 500 mètres pour le rejoindre. Et j'arrive, je ne dis rien parce que je ne veux pas bloquer la situation, déjà qu'elle est fragile. Je lui ai offert un voyage, non pas pour l'acheter, parce que c'était prévu comme ça, parce que ça me faisait mal au cœur. Je m'étais inscrite pour moi toute seule aux États-Unis, et puis ça me faisait mal parce que je l'ai élevé seule, et donc je lui en ai parlé, pensant que ça allait changer l'année dernière. Et je lui ai dit, j'aimerais bien t'emmener, mais c'est difficile, tu veux, enfin, je pense on se voit pas. Il me dit, bon voyage qu'il me fait. Et finalement, j'ai demandé si c'est possible de l'emmener. Je lui ai téléphoné après et il m'a dit oui, je veux bien venir.
Stéphanie, ma question était, qu'est-ce qui vous ennuie aujourd'hui?
Je n'ai aucune nouvelle, pas de bon anniversaire, pas de cadeau. J'ai jamais eu de cadeau de sa part. Pas de bonne année. Si je suis malade, je lui dis, je me sens pas bien. Il s'en moque. J'ai pas de coup de fil de sa part. Je n'existe pas, en fait. Alors, j'existe seulement lorsqu'il a un problème qu'il a du mal à gérer. Par exemple, il a un rendez-vous quelque part. C'est moi qui m'occupe de tous ses papiers. Je suis comme sa tutrice, en fait. Et là, il m'appelle... J'ai vu des papiers sur la table parce qu'il va chez lui se doucher tout
non,
ça.
Non, Stéphanie, après... on va encore repartir dans 10 000 détails.
Ouais.
En fait, ce que j'entends dans votre histoire, c'est qu'effectivement, vous souhaiteriez que votre fils réagisse entre guillemets normalement. Or, il a pas un fonctionnement normal. C'est extrêmement important. S'il a ce syndrome d'Asperger, il a pas un fonctionnement classique. Il est différent. Et donc, s'il est différent, il va falloir vous positionner autrement par rapport à lui. Ce qui m'embête, c'est que vous n'avez pas l'air accompagné du tout. Est-ce que vous voyez un thérapeute ou au moins quelqu'un qui pourrait non seulement vous écouter, parce que je crois que vous avez beaucoup de choses et besoin de parler, mais surtout vous expliquer ce que c'est que l'autisme, Comment fonctionnent les Asperger et comment on peut gérer ça? Comment on peut les aider? Parce que là, je vous sens un peu seule au monde face à ça.
Hein. Ah oui, mais complètement, oui, parce que moi, je suis en train de changer aussi. Je ne veux plus le déranger. En fait, je ne lui téléphone plus. J'ai décidé en 2019 de ne plus téléphoner. Il me fait des cochonneries. Ça a été très dur aux États-Unis. Dans la chambre,
Stéphanie, votre fils, on est en train de vous expliquer depuis quelque temps que probablement il est autiste. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à gérer les choses autrement. Et pour ça, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un psychiatre et d'associations qui gèrent ce genre de problème pour que vous soyez accompagné.
D'accord, oui, parce que moi, j'y comprends rien et je perds. Surtout qu'il s'est relié comme son père à un réseau et j'ai.
Mais qu'est-ce que vous appelez un réseau depuis tout à l'heure? C'est quoi? C'est une secte?
Normalement, c'est pas considéré comme une secte puisque les hommes politiques, tout le monde y est. Mais voilà, son père, je pense que c'est la première des choses qu'il ait trouvé à faire lorsqu'il a eu son gamin chez lui. Il était tellement content de récupérer son gosse je crois que c'est la première des choses qu'il ait faite de lui présenter des personnes de ce milieu.
Ok, c'est une autre histoire, Stéphanie. Je crois vraiment qu'il est très important que vous trouviez un psychiatre. Pour vous, d'abord pour mettre les choses à plat pour vous, et puis pour vous faire expliquer et vous faire accompagner. Les psychiatres connaissent les associations qui gèrent les problèmes d'autisme et comprendre comment votre fils fonctionne. Si vous avez un enfant différent, vous ne pouvez pas attendre de lui un comportement classique.
D'accord, mais je l'ai eu, le psychiatre aussi, en même temps que mon fils, on a le même, mais... Il me dit qu'il est dur, à part ça, c'est tout, quoi. Et s'il vient pas chercher son cadeau d'anniversaire, etc., laissez-le.
On ne peut pas dire d'un enfant qui a un problème d'autisme qu'il est dur, c'est bien plus compliqué que ça. Donc vraiment, rapprochez-vous d'associations. Je ne les ai pas sous les yeux, là, mais ça se trouve sur Internet, d'associations qui gèrent les problèmes d'autisme.
D'accord.
Hein, vous trouverez ça. Et trouvez pour vous, entamez une thérapie avec un psychologue ou un psychiatre.
Je vais m'occuper de mon fils parce que là, je veux dire, c'est un gros paquet quand même. Hein.
En vous occupant de vous, vous allez vous occuper de lui aussi. Parce que vous allez apprendre à gérer ce qui se passe.
Oui, je veux bien vous croire, mais c'est vrai que ça me plombe, surtout qu'il me parle souvent de « je ne vivrai pas longtemps ». Pendant 4 ans, j'ai dû gérer énormément de suicide, enfin de menaces de suicide, tout ça, j'en ai chié, quoi. Pour vous dire, j'en ai bavé. Maintenant qu'il s'en est sorti, si on peut dire, et peut-être que mon attitude est mauvaise, là,
vous êtes perdu, complètement perdu, vous avez besoin de parler, de comprendre et d'être aidé.
Mais je connais pas l'Asperger, et moi je téléphone pas, il me téléphone plus non plus,
Stéphanie, je ne peux pas vous dire plus que ce que je vous répète depuis tout à l'heure.
Je vais faire ça.
Votre fils a un mode de fonctionnement probablement différent. Il faut que vous soyez entouré de gens qui connaissent ce fonctionnement-là pour qu'ils vous aident à gérer ça.
Oui, je peux seulement rajouter quelque chose. Quand on se promène, il peut marcher 200 mètres devant moi et il s'aperçoit qu'en fait, il y a une personne encore derrière moi qui fait partie de l'association où il pouvait travailler un tout petit peu. Et alors là, il change, il revient et son attitude change complètement. Il devient l'enfant à sa mère. Alors je me dis, mais quelle comédie quand même.
Stéphanie, votre fils a un cerveau différent a priori.
D'accord.
C'est pas une question de comédie, c'est un mode de fonctionnement qui est lié à l'autisme. Donc vraiment, entourez-vous de gens qui vont vous expliquer ça.
D'accord. Je reprends contact avec lui. C'est pas que j'ai coupé, mais je me dis, j'attends d'avoir de ses nouvelles à lui parce que il me donne des nouvelles de sa grand-mère qui se fait opérer.
Vous entendez ce que je vous dis, Stéphanie?
Oui, j'ai bien entendu. Mais est-ce que un conseil? Je dois l'appeler, même si j'ai. Mais je l'appelle, mais j'ai constamment et jamais de réponse, la messagerie, et jamais il me rappelle.
Eh ben, pour l'instant, non. Pour l'instant, occupez-vous de vous. Et surtout de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce que c'est que ce syndrome d'Asperger. Quand vous aurez plus d'informations, vous saurez mieux comment gérer cette relation avec lui.
D'accord, entendu.
D'accord, c'est vraiment important.
Ouais, d'accord, entendu.
Merci de votre appel.
Ben, je vous remercie.
Au revoir.
Merci bien, bonne continuation, au revoir.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et c'est Marie que je reçois maintenant. Bonsoir Marie.
Bonsoir Sabine. Alors merci déjà de m'avoir, déjà qu'on m'ait recontactée, donc ça me fait très plaisir déjà de pouvoir participer ce soir à l'émission. Alors,
dites-moi.
Je vais essayer de vous expliquer. Alors, j'ai envoyé un mail en expliquant que depuis 2 ans, une rupture sentimentale, j'ai beaucoup de mal en fin de compte maintenant à faire des rencontres parce que j'ai pris du poids, je me suis retrouvée très mal en fin de compte, moralement. Donc là, comme j'ai expliqué, je ne sais plus qui j'ai eu au téléphone.
Hassan ou Amandine ?
Amandine, en lui disant que voilà, bon, c'est un problème un peu féminin, c'est-à-dire que maintenant, des personnes que je rencontre, je fuis un petit peu maintenant parce que j'ai un peu peur, je m'aime plus, je suis pas rassurée en rencontrant la personne, donc j'ai l'impression de je m'enferme un petit peu chez moi, quoi. Mmh. C'est-à-dire que j'évite de repartir dans des rencontres ou des choses comme ça. Donc ça m'embête un petit peu, je me sens pas forcément bien. Et là, j'ai décidé depuis le début de l'année et j'ai écouté donc lors des émissions que j'ai tenté de faire de l'hypnose pour m'aider à perdre du poids. Voilà. Donc j'ai fait simplement une première séance, voilà. Je suis dans des étapes où je me dis qu'il faut que je me prenne un peu en charge et mais après, je ne sais pas s'il n'y a pas de problème, le poids, et puis à la fois la peur de la rencontre, peur d'être...
C'est-à-dire que, par expérience, je vous dirais que le poids, c'est très souvent le poids de quelque chose ou de quelqu'un.
Ah, d'accord.
Le premier travail sur lequel je me penche dans ces cas-là, c'est toujours ça. C'est, ok, le poids, il a une raison d'être. Donc, c'est souvent le poids de quelque chose ou de quelqu'un. Il faut arriver à trouver de quoi, de qui, pour s'en débarrasser.
D'accord.
Racontez-moi un peu votre histoire à vous, Marie. Vous étiez une petite fille qui est née dans une famille comment ?
Je suis la dernière de 5 enfants. Mmh. Voilà, donc dans une famille où beaucoup livrée à soi-même.
Pour voilà. Quelle raison ?
Parce que mes parents étaient... ma maman ne s'occupait pas de nous. Elle était une femme très jalouse, donc très, très derrière mon papa, à le surveiller, à l'épier. Donc, c'était ma grand-sœur qui avait la charge, en fin de compte, de toute la famille.
Alors, c'était pas son rôle ?
Non, c'était pas son rôle. Ça, j'ai fait un peu une thérapie là-dessus, hein, il y a quelques années en arrière. J'avais un peu travaillé par rapport à que j'avais eu des grosses crises d'angoisse et des crises de spasmophilie. Voilà. Mais, oui. Mais et du coup, j'ai compris que voilà, j'étais un petit peu oubliée, souvent. C'est ce que je disais. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne s'occupait pas de moi.
La petite dernière, elle grandit toute seule, quoi.
C'est ça. Et j'ai pris après souvent le rôle d'aîné, des fois, ou apprendre en grandissant, adulte. Du moins, je me suis mariée très jeune, j'ai voulu partir très jeune justement de la maison. Et après, par rapport à un événement accidentel où j'ai perdu mon papa, j'ai pris le rôle de l'aîné à un moment donné aussi. Parce que l'aîné en avait un peu marre de s'occuper de tout, quoi. Donc après, j'ai pris un rôle qui ne m'appartenait pas non plus, je crois.
Oui. Et ce premier couple, alors comment ça a fonctionné ou pas ?
Je suis partie très jeune, donc je me suis mariée, je devais avoir 19 ans, donc très très jeune. Et je pense que je me suis aperçue que j'étais pas forcément amoureuse du père de mes enfants. Mon désir était d'être maman, voilà. Et après, on a appris à s'aimer, mais j'ai un peu reflété le couple de mes parents, à se disputer, à pas être un couple bien, bien stable en fin de compte. Mais ça a duré 20 ans quand même, on est resté 20 ans ensemble. Oui, on est resté 20 ans ensemble.
Combien d'enfants ?
3 enfants. Ah, avec
donc vous avez, quand même, vous avez construit quand même une vraie vie de famille.
Oui, totalement. Et après, on s'est on s'est totalement déchiré. Bon, c'est vrai que je ne veux pas trop rentrer dans le détail. J'étais avec quelqu'un qui était très, très dur, pas facile. J'étais quelqu'un de totalement soumise à lui. Je ne vais pas utiliser le mot pervers, je ne pense pas que c'était ça. Je pense que c'était un côté très... Il était très macho et très... très, très, voilà, il fallait écouter tout ce qu'il disait, quoi. Et c'est vrai que je me pliais beaucoup à écouter tout ce qu'il fallait faire, quoi.
Et vous, avec vos enfants, vous avez été une maman comment ?
Une maman très, comment dire, j'ai jamais su dire, ça a été une grosse difficulté, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, à dire, j'en ai parlé à mes enfants, c'est même dur à le dire au téléphone.
C'est je t'aime, les deux mots que vous n'arrivez pas à dire.
C'est ça, oui, oui, c'est ça. Ouais, ça a été très... mais ça, j'ai réussi à écrire pour un Noël, à leur écrire une grande lettre à chacun, parce qu'ils sont grands. Mais ça a été très difficile, ça, d'être une maman, à les prendre dans les bras. Je le faisais petit, mais en grandissant, je vois.
Ben parce qu'on ne vous, vous a pas appris ça à vous quand vous étiez enfant ?
Pas du tout.
Ben forcément.
Pas du tout.
Mais vous avez quand même réussi à leur dire votre amour d'une manière ou d'une autre.
Oui, parce que j'ai compris qu'il fallait... après, il y avait une génération qui était sans doute différente. Et je me suis dit, moi, mes enfants, je me dis maintenant, il faut leur parler, il faut communiquer. Donc, je leur ai écrit. Je leur ai fait une grande lettre en leur expliquant que je n'ai pas su, certains dire, ben, leur dire je t'aime. Ça, je n'ai pas su. Je pense que je n'ai pas su le dire non plus au père de mes enfants non plus.
Comment est-ce qu'ils ont réagi, vos enfants, à cette lettre ?
Très bien, l'aîné avec beaucoup d'humour, ça l'a fait beaucoup rire parce que justement, il me disait, parce qu'après je me suis beaucoup occupée d'eux dans notre période de divorce qui a été difficile, mais l'aîné avec beaucoup d'humour, le deuxième a vraiment beaucoup aimé, m'a pris dans ses bras, voilà, et le troisième, après on a des enfants qui sont tous différents, le troisième, ça l'a fait sourire, mais il était content. Mais j'ai pas eu de. Je pense qu'on sait pas se prendre dans les bras ou faire des choses comme ça. J'ai l'impression. Mais avec les enfants.
Rien que les mots, ça fait du bien. Ce sont des choses qu'ils vont garder à l'intérieur d'eux, ça.
Oui. Oui, c'est vrai.
En plus, c'est écrit, donc ça se garde. Et c'est les mots font du bien. On sait qu'un mot peut faire mal, très très mal, et un mot peut faire beaucoup de bien aussi. Hein. Donc c'est important que vous ayez réussi à dire ces mots-là pour eux trois.
Oui, parce que je pense que c'était important pour moi et pour eux aussi. Je me suis dit c'est important de montrer que je me suis beaucoup... Ils le voient, de toute façon, je sens que mes enfants sentent bien que je m'occupe... Je me suis toujours bien occupée d'eux. D'accord. Et voilà, ils sont très proches de moi en plus.
Alors, de ce côté-là, ça va. Ouais. Et votre vie sentimentale,
oui.
Alors,
c'est compliqué.
Allez voir du côté des trucs moins sympas.
Et ben c'est là où c'est compliqué justement parce que je pense que c'est ça, c'est le sentiment d'aimer. Ben c'est un peu compliqué, ça a été compliqué dans ma tête. Je pense que ça l'est encore un peu. Et le jour où je suis tombée vraiment très amoureuse de quelqu'un, on est resté c'est à la personne. Depuis, j'ai pris du poids, j'ai eu du mal, c'est cette personne-là quoi.
Alors attendez que je comprenne bien.
Je vous ai expliqué.
Après votre divorce, est-ce que c'est le premier qui est arrivé ou il y en a eu d'autres dans l'intervalle ?
Non, j'en ai eu d'autres, mais comme j'avais mes enfants à m'occuper, que le père, du moins leur papa ne s'en occupait pas bien, il me les laissait beaucoup, et ça a été quelqu'un de pas très présent, donc j'avais beaucoup mes enfants. Donc ma vie de femme, j'ai mis du temps avant de faire une rencontre. Puis j'étais pas prête, je pense, après mon divorce. J'ai commencé à faire des rencontres et c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que je pense que je compliquais la relation. Je fuyais beaucoup de choses. Dès que je voyais que la personne s'investissait un petit peu, je rentrais dans le conflit. Mmh. Ça, je me suis aperçue que c'était très compliqué. Depuis 15 ans que je suis seule, je n'ai pas revécu avec un homme. Non.
Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être de l'ordre de je rejette de peur d'être rejetée ?
Oui, je pense, oui. Ouais. C'est ça, c'est que je préfère déclencher, au début, j'ai beaucoup déclenché des ruptures. Je me suis beaucoup. J'ai compliqué la situation. J'ai eu une relation 2 ans après le père de mes enfants. J'étais avec un homme qui était très jaloux, qui me suivait beaucoup. Et j'ai tout fait pour compliquer, pour qu'on se sépare.
Oui.
Parce que c'était... Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal dans... Du moins, aujourd'hui encore, je pense que j'ai beaucoup de mal dans une relation sentimentale.
Alors, pardon Marie, juste une petite pause, parce qu'on a... Alors, il y a deux choses. Il y a David qui vous a laissé un message, parce qu'il aimerait bien prendre contact avec vous. Mais bon, ça vous êtes libre après, on vous transmettra son téléphone si vous le souhaitez. Et puis il y a Joël sur un plan plus pratique qui nous dit quelles causes peuvent provoquer la spasmophilie et quels en sont les signes visibles. Alors la spasmophilie, vous allez me dire si c'est bien ça Marie, c'est vraiment, ce sont les symptômes de tremblement, de picotement. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne plus contrôler, de plus sentir ses doigts par exemple, ça picote de partout. On a l'impression qu'on étouffe, pratiquement qu'on va mourir.
C'est ça, oui. On a l'impression d'avoir fait une crise cardiaque. Et en fin de compte, il y a du moins, j'ai eu beaucoup de symptômes. Des crises de spasmophilie, c'est dû, en fin de compte, que j'ai...
C'est de l'angoisse.
Oui, mais j'ai perdu mon papa d'un accident de voiture. Et au bout d'un an, je n'ai pas pleuré. Et le corps relâche, ce que m'a expliqué le médecin. Le corps relâche et j'ai commencé à faire des crises de spasmophilie et d'angoisse.
C'est sorti comme ça, oui.
Voilà, c'est sorti avec des sueurs, des palpitations cardiaques, des grands moments, des bouffées d'angoisse. C'est-à-dire, je paniquais, j'ai fait des crises de tétanie, la mâchoire qui se bloque.
Oui, les doigts raides et tendus aussi.
Les doigts, voilà, oui. C'est ça. Oui. Et c'est vrai que ça part par des moments de panique et je dormais pas, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai réussi tout doucement, grâce à un thérapeute, à deux thérapeutes, parce que j'ai eu quelqu'un une première fois. J'avais besoin de parler, donc j'ai rechangé après. Et ça, pendant 6 ans, à peu près 6 ans à 7 ans, pour m'aider à me libérer de mes angoisses, la peur de la mort. Voilà, j'avais peur de la mort.
On en arrive souvent à ça, effectivement. La sophrologie est un très bon outil pour se débarrasser de la spasmophilie ou la tétanie.
Oui, j'avais fait quelques séances aussi, d'apprendre à respirer.
Exactement, apprendre à visualiser du calme,
oui.
À reprendre le contrôle et à se dire que non, à se parler à soi-même. À faire taire la petite voix qui vous dit « tu vas mourir, tu vas étouffer, ça va pas ». Non mais c'est ça.
C'est horrible.
À lui dire pardon, je vais être mal polie, mais lui dire « ta gueule, parce que non, je vais pas mourir ». Mais quand on arrive à avoir ce recul-là, ça permet de gérer ces crises d'angoisse. Parce qu'il faut savoir qu'une crise d'angoisse, en fait, ça ne dure pas. Ça monte, mais ça finit toujours par redescendre. Et on le sait. Mais il faut faire taire cette fichue voix-là, quoi.
J'ai des petites... Ça, j'en ai encore un petit peu, hein. pas autant que ces années en arrière, mais j'en ai quelques-unes qui reviennent. Et une fois, j'étais intervenue avec, il y a 2-3 ans, avec Sophie pour en parler, parce que j'étais en période où j'avais des petites crises qui me remontaient des moments. Et ça fait peur parce qu'on a peur de... J'avais peur de repartir dans ces années de... longue de crise d'angoisse. Et en fin de compte, non, parce que je sais les arrêter maintenant.
Voilà.
Mais des fois, ça m'arrive d'avoir des petites peurs.
Oui, mais c'est la peur d'avoir peur qui déclenche ça, malheureusement.
Oui, c'est ça.
C'est ça le fameux cercle vicieux. Mais vraiment, il faut savoir qu'une crise d'angoisse, qu'on appelle ça angoisse, tétanie, spasmophilie, ça commence d'un coup, ça monte pendant 10 minutes, ça stagne pendant 10 minutes et ça redescend sur 25 minutes.
Ah oui, et après on est fatigué.
On est épuisé, surtout la tétanie, parce que ça, tous les muscles sont crispés, on respire mal, on se bloque. Mais vraiment, arriver à reprendre le contrôle, vous avez déjà commencé à apprendre à le faire, ça, avec la sophro, avec l'hypnose. Reprendre le contrôle de sa respiration, faire taire cette fichue petite voix qui vous fait paniquer à l'intérieur. Moi, j'aime bien la visualiser comme un petit personnage, un petit monstre à qui je claque la porte au nez. C'est vraiment, d'accord. C'est vraiment, je ne veux pas entendre voilà, je veux pas entendre cette voix qui te dit, qui me dit, je vais mourir, ça va pas, je vais faire un malaise. Non, non, non. Et je me répète intérieurement, ça va. Je reprends le contrôle. Je sais que ça va passer. Et installer une deuxième petite voix qui fait taire la première.
Mais et bon, là, c'est ce que je...
On s'éloigne des sujets de vos amours, là.
Oui, non, c'est surtout après l'hypnose que je fais par rapport au poids, c'est ça, c'est les compulsions, c'est-à-dire je remplis pour remplir un vide affectif.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un vide à remplir, mais un trop-plein d'émotions à gérer.
Ah oui.
Et les émotions, elles s'expriment avec la bouche, certes, mais pas en la remplissant, en parlant.
En parlant. Mmh. Ah oui, ben je parle beaucoup pourtant.
Oui, mais vous la remplissez aussi beaucoup.
Oui, c'est ça.
Et ce qui va être intéressant en hypnose, c'est de petit à petit, moi je parle souvent des trous dans la vie, des creux, des trous que la vie nous a fait. C'est-à-dire sur notre chemin, il y a plein de trous. Les trous, c'est tout ce qu'on a vécu de difficile, toutes les épreuves. Et ces trous, je les appelle des creux parce que c'est pas pour rien qu'on appelle ça des petits creux quand on mange.
Et ces creux, oui.
Au-dessus de ces creux-là, j'aime bien construire des passerelles d'amour de soi. Pour ne pas tomber dans ces trous-là.
D'accord.
Parce que j'entends dans votre histoire qu'il y a une estime de vous qui a été bien abîmée aussi, hein, par toutes ces expériences-là.
Eh bien, je l'ai encore. C'est ça, c'est ce que je dis aujourd'hui. C'est ce que la première chose que j'ai commencé, c'est je m'aime pas. Mmh. Pourtant, je sais que je suis une femme qui plaît, mais le problème, c'est que moi, je m'aime pas. C'est le problème, il est là. Et on a beau essayer de me rassurer, des fois même des amis hein, qui me disent souvent « tu es une très jolie femme », ben je l'entends pas, je n'arrive pas à l'entendre. Oui,
parce que l'estime de vous-même, c'est pour ça que j'ai parlé d'estime et pas de confiance, parce que ça n'a rien à voir l'estime, c'est vraiment l'amour de soi. Et là aussi, on va reparler de cette petite fille intérieure, allez la prendre par la main et dites-lui que vous l'aimez, cette petite fille-là.
C'est ce qu'on a travaillé en hypnose et j'ai fait des séances de MDR justement pour travailler là-dessus et je pense que il faudrait que je continue un petit peu parce que c'est ça, c'est travailler avec la petite fille. J'ai fait des exercices déjà là-dessus.
Et c'est important de continuer parce que si on vous a pas dit petite à quel point vous aviez de la valeur, mais vous avez grandi avec cette idée que vous n'en aviez pas.
C'est ça. Mais j'ai eu beaucoup de blessures. Mes blessures viennent de là, du père de mes enfants, qui me disait qu'il a souvent été dur dans des remarques. De toute façon, sans lui, je ne ferais rien, c'est-à-dire je ne valais rien. J'ai eu beaucoup des phrases comme ça. Et c'est resté longtemps, comme ça.
Dans ces cas-là, il faudrait comprendre et surtout prendre le recul nécessaire pour ne pas vous laisser définir par les autres.
Oui, mais après, c'est pour ça. Alors, est-ce que c'est pour ça que cette peur des... Alors, je ne sais pas si c'est une peur des hommes. Je fuis dans mes rencontres.
C'est autre chose. C'est une histoire de rejet que vous rejouez.
D'accord.
Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est quelle blessure vous rejouez, quelle scène de l'enfance vous rejouez dans ces relations-là. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose de l'ordre de... Plutôt que de risquer d'être rejeté, de souffrir, je vais me débrouiller plus ou moins consciemment pour rejeter moi-même avant.
Oui, c'est pas oui.
Mais
c'est
finalement, vous n'êtes pas plus heureuse parce que vous n'arrivez pas à construire une relation de confiance.
Non, non, non. Et c'est souvent ce que je m'aperçois et que dans les personnes que je rencontre, je m'aperçois de ça.
C'est-à-dire, en amitié, vous êtes pareil ?
Non, pas du tout. Non, je suis très fidèle en amitié. Non, pas du tout. J'ai des amis de longue date.
Et là, la confiance est plus facile à instaurer.
C'est beaucoup plus facile parce que là, il n'y a pas un enjeu. Pourtant, l'amitié, on dit bien qu'il peut y avoir un côté très proche et sentimental, même avec une amitié, mais c'est pas pareil. Je sais, j'arriverai pas à vous dire.
Et donc là, aujourd'hui, dans vos relations amoureuses, vous en êtes où ? Au point mort, non ? Où il y a quelqu'un, quelque part ?
Pas qu'il y a quelqu'un, j'ai quelqu'un qui me tourne un petit peu autour, mais comme il est plus jeune que moi, c'est une chose qui m'effraie. Alors, j'ai beaucoup de choses qui m'effraient, finalement, dans une relation. C'est ça. C'est qu'il est comme il a 10 ans de moins que moi, c'est une chose que je...
Marie, parlez un tout petit peu plus près de votre téléphone, s'il vous plaît.
Oui, excusez-moi. Oui, comme c'est quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi, c'est quelque chose qui me fait peur, le fait qu'il soit beaucoup plus jeune.
Attendez Marie, vous avez quel âge ?
J'ai 50 ans.
Bon, 50 ans, 10 ans de moins, ça se voit même pas.
Ah bon ?
Bon, c'est pas un âge. Non, mais vous m'auriez dit, j'ai 30 ans, il en a 20. Bon, mais franchement, à votre âge, c'est pas. J'ai l'impression que c'est un prétexte encore, peut-être pour ne pas oser.
Voilà, c'est ce qu'on me dit.
Mon Dieu, si j'étais heureuse et si ça marchait.
C'est ça.
Quelle horreur.
Je ris, mais c'est pas marrant.
Non, mais en même temps, l'humour permet d'ouvrir des portes et de comprendre certaines manières de fonctionner.
Oui, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. C'est que je pense que des fois, je me trouve beaucoup d'excuses. Mais j'arrive à être lucide sur ça. Et il y a des choses qui ne changent pas. Pourtant, j'ai la...
Je pense à quelque chose en vous entendant sur la tétanie, la spasmophilie. Ça cache deux émotions profondes qui sont la colère et la peur. Parce qu'on tremble de peur et on se raidit de colère. Et symboliquement, quand le corps passe par ce genre de manifestation, c'est-à-dire tremblement et raideur, c'est que les deux grosses émotions qui sont à l'intérieur du volcan sont principalement la peur et la colère.
Et donc,
il serait vraiment intéressant d'aller travailler là-dessus. Et vous savez, ce qui est important aussi en dehors de la sophro et de l'hypnose, c'est la méditation. Quand on médite pendant 20 minutes chaque jour, ça change, il y a vraiment un changement qui s'installe dans le système nerveux. C'est comme un disjoncteur qui se couperait automatiquement le courant quand ça ne va pas. C'est un temps d'arrêt qui devient aussi une priorité pour écouter ses émotions. Vous connaissez ce qu'on appelle la méthode Tipeee ?
Non, pas du tout.
T-I-P-I, renseignez-vous sur la méthode Tipeee qui permet justement de se reconnecter à ses émotions, mais juste physiquement, sans mentaliser quoi que ce soit, sans analyser, sans chercher à comprendre, juste en disant voilà.
Et oui,
C'est ce que je fais beaucoup.
Je contrôle. C'est ce qu'on m'a dit à une hypnose, elle m'a dit vous êtes contrôlante. Oui, un petit peu.
Bon, cela dit, la valeur contrôle et sécurité, 95% des femmes l'ont. Hein. C'est un grand classique.
La méthode Tipeee.
T-I-P-I, qui permet justement de se connecter uniquement à ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce que je ressens là? Quelle est cette émotion? Et juste de l'accepter et de se rendre compte que les choses changent dans le corps.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on traverse, je pense, toutes les émotions, si elles existent, c'est pour être reconnues, exprimées et dépassées. Tant qu'on les exprime pas et qu'on les dépasse pas, on se prend les pieds dedans. Et c'est pas de manière intellectuelle qu'on peut gérer ses émotions. C'est intéressant de comprendre en thérapie, en analyse, le pourquoi du comment. Mais à un moment donné, il faut vraiment travailler sur les émotions. Et cette méthode-là est intéressante pour ça, la méditation, la sophro, l'hypnose, tout ça, c'est bien. Et puis, ce qu'on disait vraiment, vous l'avez compris, il faut travailler chez vous sur cette peur. Il y a une peur ancestrale chez vous, qui peut-être vient même d'encore avant, je ne sais pas.
Oui, je sais qu'il y a une peur, parce que là, la peur, c'est ce que... J'ai beaucoup de peur, finalement. Et je n'ai pas trouvé encore, la clé encore, je ne l'ai pas. J'y travaille pourtant, je continue, j'y travaille. C'est pour ça que j'ai dit ce soir, je vais en discuter un petit peu pour essayer de m'apporter d'autres chemins. Quoi, pour... petites clés auxquelles je vais travailler.
Mais vous savez, le chemin est sans fin. Plus on avance, plus on apprend des choses et plus on se dit qu'il y a encore d'autres choses à travailler. Mais c'est comme ça qu'on évolue et on est là pour ça. On est là pour devenir la meilleure version de soi-même, je pense.
Oui.
Et on a une vie pour ça.
Oui, c'est ça, on a une vie. Le plus important, c'est qu'elle soit le plus longue possible.
Et tant qu'à faire, la plus agréable aussi.
Oui, c'est ça aussi. Mais c'est vrai que je trouve que je me maltraite un petit peu quand même. Ouais, je me fais un peu de mal quand même.
Et concentrez-vous sur toutes les belles choses que vous avez réussies dans votre vie déjà. Hein ?
Oui.
Vous pourriez dire là tout de suite, je suis quelqu'un de bien ?
Je suis quelqu'un de bien. On me le dit, donc oui, je le pense. C'est vrai qu'on me le dit, mais après, il faut que j'arrive à le dire. C'est pour ça que je me suis fait un tableau de vision avec des phrases
positives.
Mais si je suis heureuse, je suis contente. Et j'essaye de me dire que je m'aime, mais c'est difficile ça.
Alors, vous allez arrêter d'essayer, vous allez le faire pour de vrai ?
Oui.
Vous avez remarqué que tous les gens qui vous disent « j'ai essayé de faire ça », c'est qu'ils ont raté.
Oui, c'est vrai. Hein,
alors bannissez aussi le mot « essayer ».
Oui.
Faites.
Oui, que je fasse, oui.
Et puis surtout, croyez-y, plus vous allez y croire vous-même, plus ça va restaurer aussi votre estime de vous. Mais vous l'avez compris, c'est un mélange de plein de choses, l'estime, la peur, tout ça. La peur engendre un manque d'estime, le manque d'estime engendre cette colère contre la vie, contre plein de choses. Tout ça, ce sont des nœuds émotionnels que vous allez petit à petit défaire pour avancer plus sereinement, plus librement et donc plus légèrement aussi dans votre vie.
Très bien.
Et puis on va finir sur une note d'humour, Marie. Vous n'avez pas grossi. Vous avez simplement élargi votre surface de caresse momentanément.
Ah, c'est joli, ça. Hein? Oui, c'est très joli, oui.
Vous voyez que tout est une manière de voir les choses.
C'est ça, c'est vrai. Ah oui, c'est très joli. Je réécouterai pour, pour noter ça.
Vous avez élargi votre surface de caresse.
J'ai élargi ma surface de caresse. C'est
Marie,
très beau.
L'émission se termine. Je sais que vous êtes entre de bonnes mains. Avec cette thérapeute, donc ça c'est une très bonne chose.
Écoutez, je vous remercie.
Travaillez
beaucoup.
Bien sur cette petite fille intérieure, sur l'estime de vous, sur cette blessure de rejet, et puis petit à petit vous allez vous construire une belle vie.
Merci bien, Sabine.
Vous savez, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter. Alors, croyez que vous méritez le meilleur. Je vous embrasse.
Je vous remercie.
Au revoir,
bonne
Marie.
Bonne soirée.
Merci à vous, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h pour de nouvelles confidences. Et d'ici là, je vous quitte avec une petite citation. Vous serez serein lorsque vous saurez accepter que votre vie ne se déroule pas comme prévu. Passez une bonne nuit et à demain soir.